On accueille Violette au 39-21. Bonsoir Violette.
Bonsoir.
Comment allez-vous Violette?
Très bien, très très bien.
Quel joli prénom pour une jeune femme.
Merci, c'est gentil.
Non mais, en fait, ces prénoms, vous en conviendrez peut-être avec moi, ce sont des vieux prénoms, non Violette?
Tout à fait, oui.
Hein, c'est et pas, qui sont revenus à la mode à un moment.
Et, oui, tout à fait, dans les années 90. Ouais, encore, il y en avait peu hein, quand j'étais enfant, mais maintenant, effectivement, on retrouve de plus en plus des prénoms de fleurs.
Ça reste pas super répandu, Violette, hein, mais c'est très joli. C'est très joli et ça n'a pas vieilli. Violette, d'où nous appelez-vous?
Alors, moi, je vous appelle de Paris.
De Paris, d'accord. Et quel est votre âge?
30 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Violette? Dites-moi.
Alors moi, je vous appelle, à la base, c'était pour vous parler un petit peu donc du handicap et plus spécifiquement du nanisme, ou plus simplement des problèmes que vous pouvez rencontrer éventuellement les personnes de petite taille.
D'accord. Mais écoutez, je vous écoute parce que je pense que vous en avez pas mal à me raconter.
Oui, alors effectivement, je ne sais pas forcément par quel bout commencer.
Demain, vous allez me dire, c'est la journée.
Exactement, la journée internationale du handicap.
Oui.
Et effectivement, c'était peut-être une des raisons, ou en tout cas l'occasion d'en parler, tout en sachant qu'en ce moment, il y a aussi la campagne nationale lancée par le gouvernement de sensibilisation au handicap. Et voilà, c'est quand même des problématiques qui concernent tout le monde et qui, je trouve, en tout cas, sont de plus en plus exposées. Et c'est tant mieux qu'on en parle. Mais voilà, après, il y a aussi tout un tas de handicaps, plusieurs types, et le nanisme est aussi quelque chose de très spécifique. Et à la base, on avait contacté Europe 1, parce que je suis aussi administratrice de l'association des personnes de petite taille, et dans le cadre de la journée internationale du nanisme, on avait édité un plaidoyer à destination donc des politiques publiques et des pouvoirs publics, en proposant quelques propositions concrètes pour favoriser l'intégration et le vivre ensemble.
D'accord. Vous, à votre niveau, quel type de problématiques affrontez-vous aujourd'hui?
Alors moi, à titre personnel, je dirais que c'est essentiellement le regard de l'autre. Donc le fait de côtoyer quelqu'un qui est toujours surpris quand on aura interagi communément dans l'espace public et qui n'est pas forcément familier à ce type de cette différence qui peut être soit étonnante visuellement au premier abord quand c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, qui peut être aussi porteuse de stigmates. Le nanisme, c'est quelque chose qui a énormément de préjugés. Qu'on n'associe pas forcément par ailleurs au handicap, et du coup ça facilite un petit peu la stigmatisation primaire, dans le sens c'est quelque chose dont on pourrait rire assez facilement parce qu'on se dira que bon, c'est qu'une question de taille et c'est pas forcément un vrai problème en soi. Donc moi, à titre personnel, je pourrais dire qu'effectivement j'ai été confrontée, je suis confrontée à ce type de sujet.
Oui.
On ne va pas se leurrer, c'est des maladies, enfin le nanisme, c'est plusieurs maladies qui peuvent être génétiques, hormonales, d'origine ethnique, mais qui impliquent en tout cas des difficultés médicales qui peuvent être très lourdes et qui du coup impactent le quotidien en termes d'accessibilité, en termes de parcours de soins et qui s'ajoutent du coup à ces problèmes d'intégration sociale dont je faisais mention tout à l'heure.
Mmh. Le nanisme, en fait, a toujours, dans la tête de beaucoup de personnes, a toujours représenté un côté, comment vous dire, un peu drôle, un peu festif.
Burlesque.
Un peu burlesque, voilà. Et est-ce que vous ressentez tout de même que... ça évolue. Moi, j'ai l'impression que des films, des docs, des documentaires ont participé à rétablir les choses et à surtout rappeler à celles et ceux qui pensaient que c'était burlesque, que c'était tout sauf ça.
Oui, on n'est plus trop là, dans les problèmes ou les moqueries qu'il pouvait y avoir quand les personnes de petite taille étaient vraiment l'objet de risées à proprement parler, parce qu'elles avaient des métiers aussi qui les mettaient dans des scènes, dans des situations pas forcément bienveillantes et assez dégradantes. On n'est plus du tout dans ces schémas-là où la personne de petite taille est vraiment le nain, mais en l'occurrence, il y a toujours des. On le sait, mais en même temps, les personnes on va dire, ne s'octroient pas, ou en tout cas ne s'empêchent pas de rire ouvertement et vulgairement de cette différence. Je parle souvent, par exemple, c'est un phénomène qu'on observe et dont j'ai été. Donc ça m'est arrivé de vivre cette situation, des photos, ce qu'on appelle des photos à la volée, par exemple le fait d'être prise à son insu en photo dans la rue. Bon, effectivement, c'est une moquerie qui est assez contemporaine, qui est finalement au goût de notre société actuelle, avec les réseaux sociaux, les informations qui circulent très vite et qui pour autant continue, ou en tout cas encourage, nourrit cette image un peu décalé et péjoratif de la personne de petite taille, quoi. Et c'est vraiment problématique, en fait. C'est-à-dire que c'est d'autant plus problématique que ce type de situation ne concerne pas forcément que les personnes de petite taille dans l'absolu, quoi. Et pour la construction de soi, c'est pas forcément évident, quoi. Donc on n'est pas tous égaux en termes d'armes, en tout cas pour se défendre et pour prendre de la hauteur là-dessus. Et ça peut être perçu, en tout cas, de façon très violente, quoi.
Quel recours vous avez face à ces gens qui vous filment ou qui vous photographient à votre insu? Et cela va avec l'époque, hein, parce que moi, par exemple, je fais régulièrement l'objet de photos comme ça, et je déteste ça. Je trouve qu'on peut
Mais vous
demander.
faites peut-être, j'imagine que vous faites l'objet de photos parce que
Oui,
vous êtes obligé de la croire.
bien évidemment, mais le principe
Ah
même,
oui.
bien évidemment que je comprends quelle est la démarche. La démarche pour certains étant qu'ils n'osent même pas, alors que je trouve que ça fait partie de mon métier de faire des photos avec les gens. Et vraiment, je trouve que signer des autographes ou faire des photos, ça fait partie, on doit faire ça quand on est une personnalité publique. Mais les photos à la va-vite comme ça, c'est quelque chose de bon, d'un peu spécial. Mais pour vous, je trouve que ça, vous devriez avoir recours à la justice. Dans ces cas-là, vous
Mais c'est
pourriez.
très compliqué parce qu'il faut avoir la preuve. Le fait est
Oui,
que
oui.
il y a beaucoup d'adhérents à la PPT qui remontent ce genre de fait, c'est que c'est vraiment quotidien. C'est-à-dire que on sait, la personne voit qu'elle est prise en photo. Alors ça peut être parce que l'appareil photo ou le smartphone de la personne réverbère, enfin, on voit la réverbération dans la vitre qui est à côté, donc on se voit être pris en photo, donc on sait pertinemment qu'on fait l'objet d'une capture d'écran, enfin une capture.
Oui.
Et donc en fait, techniquement, soit il y a confrontation sur le moment, mais la personne vous dira: ah non, 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 je n'y ai pas fait, j'ai rien fait, et va vous mettre ça sur le dos de la paranoïa, en disant: bah attendez, je n'ai rien fait du tout, c'est vous qui vous faites des films, bon, soit, ok, passons. La solution, c'est de se retrouver géolocalisé via les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a été pris en photo près de tel endroit, et on ira, bah, je sais pas, on ira sur la page Instagram ou Facebook du lieu où la situation s'est produite, et avec j'allais dire, un peu de chance. Oui, un peu de chance, on s'y retrouve. Et là, dans ce cas-là, ça peut effectivement amener à une éventuelle procédure juridique. Ouais. Mais
Alors,
encore faut-il pouvoir se retrouver dedans.
c'est la première discussion que je peux avoir avec une personne de petite taille. Donc, ne m'en voulez pas si je vous pose des questions un peu naïves.
Absolument pas. Non, non, absolument pas.
Mais votre enfant, est-ce que vous avez eu à souffrir de ce handicap enfant et puis ensuite de votre adolescence?
Souffrir est un mot bien fort. Oui, c'est compliqué. Ça a pu être compliqué. Après, moi, j'ai effectivement évolué dans une famille où tout se passait très bien. Enfin, j'étais particulièrement intégrée dans un environnement familial qui m'ont donné une énorme confiance en moi. Ce qui fait que quand j'étais confrontée au monde extérieur, j'avais pas de. Enfin, en général, je montais assez rapidement sur ma bête et étaient en mesure de me défendre. Après, il y a des situations qui sont toujours désolantes et qui sont prenantes et sur lesquelles il n'y a pas forcément de solution. Et que quand ça touche à l'estime de soi ou à des choses qui sont ancrées dans le système, en fait, quand c'est une institution, une école, une entreprise ou autre qui vous placarde cette difficulté, c'est un tout autre combat. Oui, le regard de l'autre, je l'ai vécu enfant, ce qui fait qu'on est doublement plus sensible quand on est adulte. Certes, si les choses évoluent, moi j'ai habité en campagne, c'est pas du tout le même regard de l'autre qu'à Paris. Paris embrasse un peu plus de monde, beaucoup, la différence est quand même présente, donc je pense que les gens sont moins interloqués et ont un regard moins lourd à l'égard de la différence. Donc voilà, en tout cas au cours de mon parcours, j'ai pu voir ce type de changement. Après, je sais qu'il y a des sujets qui resteront. Qui sont encore présents et qui resteront encore une bonne partie d'années, quoi.
Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui, alors en tant qu'adulte, en fait, au-delà donc de ces photos, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou qui vous blessent et qui reviennent régulièrement?
Ben, c'est une attitude globale à l'égard de cette fameuse considération. Après, ça peut changer des secteurs d'activité dans lesquels on travaille. Ça peut changer aussi, je vous disais, je parlais des villes. Il y a plein de facteurs hein, qui rentrent en compte. Mais je dirais que ben, le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort de chez soi, on est confronté. Il y a quelqu'un qui vous rappelle que vous êtes différent. Donc, pour l'estime de soi, on a beau essayer de passer outre le regard de l'autre en se disant « c'est des imbéciles, oui, je sais, ils m'apprennent rien ou autre », mais au quotidien, ça reste quand même quelque chose qui est lourd pour la personne. Je dirais que c'est ça, premièrement. Et ensuite, éventuellement, si on n'a pas suffisamment les armes pour dépasser cette différence et faire ses preuves et dire que bah, c'est possible de faire tel métier, de faire telles études, d'aboutir à tel projet, même si c'est très ambitieux, il n'empêche que je souhaite que ça marche. Si on n'a pas ces armes, bah c'est la construction de soi qui en pâtit au quotidien.
Quoi. Oui, oui.
Et ça, c'est pas que le facteur la socialisation primaire, c'est aussi la société dans laquelle on évolue tous, qui est aussi pour quelque chose. Quand, franchement, il y a mille exemples, hein, que ça traite de la scolarité, du parcours médical, quand on sait que, par exemple, pour avoir un suivi médical, ou en tout cas un suivi administratif en MDPH, on doit prouver corps et âme que bah, telle forme de nanisme, ça impacte ça dans son quotidien et qu'on se dit qu'en 2021, c'est pas encore compris et qu'on se repasse pendant des ribambelles de médecins pour justifier sa propre demande, des médecins qui sont pas forcément spécialistes de la dite pathologie, etc. et qui vous disent, bah, en fait, non, c'est juste une question de taille, il n'y a pas de problème, alors qu'il peut y avoir des problèmes de scoliose, de lordose, avec des décompressions de colonne vertébrale. Enfin, il y a plein de complications médicales qui peuvent être liées en fonction des cas de figure. C'est pas juste, ça peut être un parcours du combattant, en fait. Donc, ça paraît très conceptuel de la réponse à votre question sur le qu'est-ce qui concrètement pour un adulte de petite taille pose problème. Je dirais que c'est au-delà donc, de ce que je vous disais en termes de regard de l'autre, c'est aussi le fait que on est toujours obligé de prouver soit que c'est possible, mais que c'est possible aussi parce que, sans oublier qu'il y a tel et tel problème ou problématique qui va avec, quoi.
Mais vous qui militez, si j'ai bien compris, en tout cas vous occupez des autres, quels sont les témoignages qui ont retenu votre attention, qui vous ont le plus ému, parce que on sait qu'avec les réseaux sociaux, avec la démultiplication des technologies nouvelles, j'ai l'impression que ça s'est un peu que ça a un peu repris les moqueries, les mises en scène.
Oui, bah il y a dernièrement, il y a des choses qui m'ont touchée sur effectivement ce qui concernait les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, vous le disiez, je milite, même si j'aime pas forcément trop ce terme, mais en tout cas je sensibilise, je travaille à sensibiliser et expliquer cette différence dès qu'on fait une prise de parole en public. Que sur 50% ou 60% des commentaires Facebook ou Instagram, on va se faire lyncher. Le lynchage, ça peut être d'être traité de tel acteur de petite taille ou on bouffera du nain, on parlera de Nicolas Sarkozy ou ceci. C'est-à-dire que prendre la parole et expliquer publiquement ce sujet est un double effort, quoi. C'est-à-dire que non seulement on explique et on prend le temps d'expliquer cette différence qui, de nouveau, est particulière, puisqu'elle est peu commune. Et à côté de ça, une fois l'explication faite, on sait que on va aller regarder pour voir ce qui se dit, parce que ça fait partie aussi de nos missions associatives de savoir ce qui se passe sur la toile et de voir comment les internautes peuvent réagir et de voir que, pour un commentaire positif, on peut en avoir un et demi ou deux négatifs.
Est-ce que certains des personnes de petite taille que vous connaissez vivent des scènes de violence, en fait, parce que j'ai entendu parler de 2-3 agressions comme ça, gratuites. Est-ce que c'est quelque chose, vous, dont vous avez entendu parler? Est-ce que ce sont des choses qui touchent la communauté?
Agression physique ou...
Physique,
ouais. Oui, ça l'a été, ouais. Oui. Non, bien sûr. Après, ça dépend encore une fois des quartiers, des personnes qui ont commis ce type d'acte. Mais oui, c'est pas ce qui est le plus remonté. Hein.
D'accord.
Le problème du moment, c'est vraiment effectivement avec les réseaux sociaux et cette histoire d'image négative qui est toujours présente. L'an dernier, on avait encore une prof de français, par exemple, qui proposait en collège un exercice de 7 familles pour travailler sur la figure des monstres. Donc il y avait Shrek, il y avait tout type de figures de monstres qu'on peut retrouver dans la littérature. Et dedans, il y avait le nain, quoi. Et la personne, en l'occurrence, qui représentait le nain, à proprement parler, c'était l'acteur, le figurant qui fait Passepartout dans Fort Boyard.
Oui.
Peu importe. La question, c'est pas de savoir si Passepartout c'est bien ou pas bien, mais c'est de se dire qu'on est dans un cadre pédagogique. On utilise l'image d'une personne, c'est la seule personne humaine qui faisait partie de ce jeu de cette famille, puisque les autres n'étant pas réels. On utilise l'image d'une personne sans forcément, j'imagine, demander son autorisation pour en faire un exercice pédagogique, mais en fait qui n'est qu'amalgame. Enfin, on ne peut pas se permettre ce type d'utilisation et ce type d'amalgame qu'on a, qu'on rencontre, on en a finalement assez souvent, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment j'allais dire naze, mais traduisez ma pensée, d'appeler la personne de petite taille, ils sont deux d'ailleurs sur Fort Boyard, Passepartout, parce que c'est encore une manière de pointer du doigt. Bah oui, les petits Passepartout, enfin ça entretient. Vous voyez ce côté un peu burlesque, un peu c'est marrant, c'est drôle, c'est joyeux. Il y a rien de joyeux dans tout ça.
Exactement.
Question naïve de Patrick, il s'en excuse par avance. À partir de quelle taille est-on considéré comme une personne de petite taille?
Alors, c'est une moyenne, hein. C'est encore une fois, c'est du cas par cas, mais on dira que c'est 1m35 pour les femmes et 1m40-45 pour les hommes. Mais c'est pas parce qu'il y a un homme qui fait aujourd'hui 1m45 qu'il sera considéré médicalement comme une personne de petite taille. Une personne de petite taille, c'est quelqu'un qui a qu'à soit une maladie osseuse constitutionnelle, ce qui est le cas donc de la chondroplasie, c'est la forme de manisme la plus courante, hein, dont est porteur les fameux acteurs de Fort Boyard, Minimati.
Oui.
Et il y a aussi des manismes qui sont dus à un déficit hormonal ou qui sont d'origine ethnique. Mais voilà, il y a une vraie raison médicale, en tout cas, on ne s'improvise pas, personne de petite taille, si je puis me permettre. C'est justifié médicalement et biologiquement. Quoi.
Mmh. Est-ce que, parce que j'ai aussi entendu parler d'enfants de petite taille, donc, qui abandonnaient leur scolarité parce qu'un harcèlement, une moquerie encore. Vous avez entendu parler de ça?
Oui. Ouais. Oui. Et puis on a des. Il y a aussi ces problèmes de encore une fois, j'aurais dit que c'est de l'ordre du système aussi. On a des écoles ou des corps éducatifs aussi qui ne veulent pas ou qui se sont posés fortement la question d'inscrire réellement quelqu'un un enfant ou un élève de petite taille dans un cursus classique, quoi. Et je trouve que c'est désolant qu'en 2021 on se repose encore cette question et que certains puissent encore assimiler la question de la taille à au potentiel capacité intellectuelle. Qu'on se la pose, à la limite, tout le monde a le droit de se poser toutes les questions. C'est pas un problème dans l'absolu. Mais qu'on n'aille pas jusqu'au bout du raisonnement et qu'on cherche pas une solution, une réponse concrète et scientifique à cette question et qu'on établisse une conclusion, en fait, en disant bah non, il est porteur de nanisme ou d'une forme de nanisme, donc du coup, ça va être compliqué de le mettre dans un cursus classique, oui. Il vaut mieux qu'il rentre dans des classes spécialisées, mais sur la base de quoi, en fait? Mais ça, oui, c'est encore, on a encore des cas de figure de ce type, quoi.
Il y a quand même des difficultés pour ces enfants, donc, à affronter une scolarité longue, finalement.
Oui.
Ouais. Mmh. Ouais. Je lis certains chiffres que mes collaborateurs m'ont donnés. 130 000 personnes dans le monde, 8 à 10 000 personnes en France. Cela vous paraît être les bons chiffres?
Tout à fait, oui.
9 fois sur 10, allez-y, pardonnez-moi.
Oui, c'est ça. J'allais dire qu'en revanche, j'allais exactement dire qu'en revanche, c'est pas quelque chose qui se transmet. Enfin, c'est quelque chose qui se transmet évidemment, puisque en général, ce sont des maladies génétiques, mais que 8 à 9 fois sur 10, j'allais dire au moins 80%, mais je crois que c'est 9 fois sur 10. Donc la personne de petite taille n'a pas de parents ou de parenté en tout cas qui est porteuse d'un nanisme.
D'accord,
donc c'est ça qui est d'autant plus désolant, c'est-à-dire qu'en fait demain ça concerne vraiment tout le monde, quoi, même si c'est que 10 000 personnes en France, le nanisme concerne vraiment tout le monde. Quoi.
Parce que je lis que 9 fois sur 10, les enfants atteints de nanisme naissent de parents de taille dite classique.
Classique, oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Parce que en général, ce que je vous disais, la forme qui est la plus courante, c'est la chondroplasie, la chondroplasie qui est une maladie génétique et qui est due à une mutation d'un des gènes. Et donc, du coup, une mutation génétique, ça peut. Il n'y a pas forcément de facteurs, ni environnementaux, ni de l'ordre du patrimoine génétique qui est la cause principale de cette mutation. Il y a des mutations qui peuvent être dominantes, et dans le cas de la chondroplasie, elle l'est. L'enfant devient porteur, mais ce n'est pas pour autant que les parents l'étaient. Quoi.
D'accord. Et. Est-ce que vous avez l'impression que la représentation du nanisme dans la fiction, par exemple, a évolué ces dernières années?
Oui, mais pas forcément en France. Moi,
non, aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, exactement. Mais ils ont un train d'avance là-dessus et je ne saurais pas forcément l'expliquer sociologiquement pourquoi eux, ils ont une case, voire deux cases d'avance, mais non, en France, vous voyez bien. Hein,
alors, je vais vous dire, j'ai regardé Six Feet Under pour la quatrième fois, mais ça faisait 10 ans que je ne l'avais jamais plus regardé. Et vous avez raison de dire que les Américains ont quand même vraiment 20 ans, voire 25 ans d'avance sur nous, car dans Six Feet Under, on traite tout un tas de choses, et notamment toutes les minorités sexuelles, le genre, sont abordées et défendues comme. aujourd'hui. D'ailleurs, This Is Us prend un sacré coup de vieux et un sacré coup de ringard quand on regarde Six Feet Under.
Quand on le regarde.
Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Violette, en tout cas, pour votre intervention sur l'antenne d'Europe 1.
Merci à vous. Merci beaucoup.
On vous embrasse bien fort. Au revoir.